Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous.
Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Très chers auditeurs, très chères auditrices, vous écoutez l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui n'est autre que cette émission où la vérité biblique uniquement est proclamée, sans détour, sans compromis et sans concession. Rassurez-vous, vous avez très bien fait d'être à l'écoute. Et pour vous servir, je suis, je reste, je demeure toujours votre très humble serviteur. Où que vous soyez, très chers auditeurs, très chères auditrices, mesdames et messieurs, oui, je sais que vous êtes si nombreux à être à l'écoute dans vos maisons, dans vos véhicules, dans vos boutiques et dans les bureaux, où que vous soyez. Recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations. Dans le merveilleux, magnifique, glorieux et tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et soyez vraiment bénis. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'honorer ce rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique. Étant donné que le Christ lui-même a dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra tout simplement libre. Donc, il n'y a que la vérité du Seigneur Jésus-Christ qui soit capable de nous rendre libres. Comme promis, très chers auditeurs et auditrices, nous allons continuer toujours. C'est vrai qu'une pause avait été faite. Nous allons lever cette pause parce qu'une série d'émissions avait été consacrée à la jeunesse. Et une pause avait été faite. Je disais tantôt que cette pause va être levée. Et nous allons continuer vraiment à nous intéresser à la jeunesse parce que je crois que ce leader de demain, l'avenir de demain, le futur dirigeant de demain, ont besoin de la parole de Dieu pour être préparés et surtout être équipés. Parce qu'on ne peut pas aller en guerre sans être équipé. Et étant donné que la vie aussi c'est un combat, les jeunes doivent être suffisamment éclairés et équipés. Et la parole de Dieu est très 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 bien placée pour nous équiper tous, y compris les jeunes. Parce que la Bible s'intéresse aussi aux jeunes gens. Bien entendu, je me réjouis toujours parce que lorsque je parle de jeunes, c'est vrai. On dit aussi que la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que vous qui êtes à l'écoute d'une manière ou de l'autre, vous serez aussi intéressés par tout ce qui sera dit. Oui, je tiens également à adresser un salut particulier à Gaston Maman qui vient de m'envoyer ce message. C'est un fidèle auditeur également. Sois béni abondamment, mon frère. Et sans plus tarder, je vous invite comme toujours à avoir un stylo et sur quoi noter. Parce que c'est toujours très très important que notre foi, cette foi qui peut nous libérer, nous sauver, nous affranchir et nous élever, soit fondée uniquement sur les saintes écritures, bien entendu la Bible. Nous allons lire sans plus tarder dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, le verset 28. J'ai dit bien le livre du prophète Joël, chapitre 2, le verset 28. Je me charge de lire cette portion des Saintes Écritures pour nous tous. Il est écrit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Dans cette portion des Écritures que nous venons de lire, dans Joël chapitre 2, le verset 28, le Seigneur a dit que pendant cette période-ci, particulièrement cette période qui se situe dans la fin des temps, le Seigneur fera une chose. Qu'est-ce qu'il fera? Il répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, c'est-à-dire parleront de la part de l'Éternel. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Le Seigneur a promis de donner aux jeunes gens des visions. Des visions pour leur propre vie. Des visions pour leurs familles. Des visions pour leurs villes, pour leurs nations et même pour l'humanité toute entière. Quelle très très bonne nouvelle, jeunes gens. Oui, fait des lances de la nation, l'avenir de demain, les futurs leaders politiques, économiques, spirituels de demain. Le Seigneur dit qu'il va répandre son esprit sur vous et il va vous donner des visions. Des visions. Et c'est très, très important d'avoir la vision ou des visions dans la vie. Oui, très, très important. Parce que dans Proverbes, la Bible va nous dire que un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Oui, un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Donc, c'est très, très important d'avoir la vision. Parce que c'est la vision qui permet d'avancer. Oui, quand vous n'avez pas de vision, vous allez tourner en rond. Parce que vous ne savez pas où vous allez. Alors que lorsque vous avez une vision, ça vous permet d'avancer. Parce que vous savez où vous allez. Et la vision a la particularité de créer le fardeau. Et après, bien entendu, créer aussi l'action. Oui, la vision crée le fardeau et l'action. Lorsqu'on a une vision, on sera toujours en action. On sera toujours en mouvement. Et on va aller de l'avant. C'est lorsqu'il n'y a pas de vision qu'on tourne en rond. Alors, jeunes gens, la Bible dit, le Seigneur vous a promis des visions. Non, le Seigneur veut déposer des visions, ou même une vision particulière dans votre esprit, dans votre cœur. Cette vision qui va vous permettre de réussir votre vie, cette vision qui va vous permettre d'aider votre famille, d'aider votre ville, votre nation et même l'humanité. Si vous regardez autour de vous, beaucoup ont influencé positivement. D'abord, leur propre vie, leur entourage immédiat, leurs familles, leurs villes, leurs nations et même l'humanité. Parce que ces personnes avaient des visions. Et que le nom du Seigneur soit béni parce que c'est lui-même qui promet de vous donner des visions. Et lorsque le Seigneur donne une vision, ça ne peut être qu'une vision excellente, merveilleuse, magnifique et même sans pareil. Alors, jeunes gens, soyez disposés à recevoir les visions de la part du Seigneur. Le Seigneur veut répandre son esprit sur vous. Mais, puisque c'est lorsque vous allez recevoir l'Esprit de Dieu qu'il va également répandre sur vous cette grâce concernant particulièrement les visions ou la vision. Pour recevoir l'Esprit de Christ, Il faut tout simplement croire en lui. Oui, c'est ce que le Christ va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 37, où il est écrit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout se cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39, « Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir. » Ceux qui croiraient en lui, alléluia. Le Seigneur a dit que si vous croyez en lui, vous allez recevoir son Saint-Esprit. Et nous avons lu dans Joël que Dieu veut répandre son Esprit Saint sur ses créatures, particulièrement sur les jeunes gens, et ils auront des visions. Alors, vous êtes encouragés maintenant même, si vous n'avez pas encore reçu le Christ, de vous arrêter et de faire une courte prière avec foi, sincérité et ferveur en disant « Seigneur Jésus, je crois que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je crois que pour moi, tu es mort à la croix. Tu as porté mes péchés. Tu as porté mes iniquités. Seigneur, je regrette sincèrement. Pardonne-moi toutes mes fautes. Que ton sang versé à la croix efface mes iniquités. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Seigneur, tu es mort pour me sauver. Tu es ressuscité pour me justifier. Et je le crois, je le confesse de ma bouche et je le crois de tout mon cœur que l'Esprit que tu as promis, le Saint-Esprit, vienne dans mon cœur, dans ma vie, maintenant même, pour faire de moi un enfant de Dieu. Et que Seigneur, cette vision que tu as promise soit aussi mon partage maintenant. Dépose dans mon esprit, dans mon cœur, une vision ou des visions pour ma vie, pour ma famille, pour ma ville, pour ma nation et même pour l'humanité. Merci Seigneur Jésus de m'écouter et de m'exaucer. Que toute la gloire te revienne. Amen. Si vous avez fait une courte prière semblable à celle-là avec foi, croyez-moi, le Seigneur vous écoute et vous a écouté. Et il vous a exaucé. Dans les jours qui vont venir, l'Esprit de Dieu va commencer à vous animer et vous allez recevoir également de la part de Dieu une vision ou des visions pour votre vie, pour votre avenir et pour toute l'humanité. Pourquoi pas? C'est la parole du Seigneur et c'est ça qui est la vérité. Si vous venez de vous connecter, vous écoutez l'heure de la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et nous sommes en train de nous intéresser particulièrement au fer de lance de la nation, le leader de demain. Et nous allons lire également dans le livre du prophète Amos. Juste après Joël, il y a le prophète Amos qui dit ceci. Nous sommes dans Amos chapitre 2, le verset 11. Il est écrit ceci, Amos 2, verset 11. « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes gens des Nazaréens. » Amen. Le Seigneur dit qu'il va susciter parmi vos fils des prophètes et aussi parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. Qu'est-ce qu'un Nazaréen? Un Nazaréen, c'est cette personne qui se met volontairement à part pour le Seigneur. Oui, cette personne qui décide de se séparer du péché, du mal, des choses profanes, pour se consacrer volontairement au Seigneur. Et le Seigneur a dit qu'il va susciter des jeunes gens dans ce sens. Alors, jeunes gens, est-ce que vous êtes parmi ceux-là que Dieu veut susciter dans ce monde pour mettre à part pour lui? Parce que Dieu veut des gens à qui il va communiquer des visions, à qui il va communiquer beaucoup de choses pour pouvoir impacter positivement cette génération. Mais pour cela, il faut des gens qui vont se lever et qui vont décider de se mettre à part pour lui. Parce que tant que vous ne vous mettez pas à part pour le Seigneur ne peut pas vous parler, ne peut pas vous utiliser facilement. Parce que beaucoup de choses vont empêcher que vous puissiez discerner les voies de Dieu et comprendre même les plans de Dieu. C'est quand vous vous mettez à part que vous êtes maintenant disposé à écouter Dieu et à travailler avec le Seigneur. Et le Seigneur a dit qu'il va susciter des jeunes dans ce sens. Alors, jeunes gens, disposez-vous, préparez-vous, parce que le Seigneur cherche ces personnes qui vont se mettre à part. Pendant que tout le monde court à la dérive, pendant que les gens sont plongés dans la corruption, la compromission, le mal, et oui, pendant que beaucoup de gens sont vraiment en train de se laver avec le péché, le mal, les plaisirs de ce monde qui détruisent, oui, est-ce que vous allez faire la différence? Vous mettre à part pour le Seigneur volontairement, sans contrainte, sans pression. Oui, est-ce que vous êtes parmi ceux-là alors que le Seigneur vous bénisse abondamment? Si vous êtes prêt à vous mettre volontairement à part pour le Seigneur, à dire non, non au péché, non au mal, non à la compromission, non et non et non à tout ce qu'il y a tout autour de nous qui nous distrait et qui nous éloigne même de l'essentiel. Alors, si vous êtes parmi ceux-là, que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Et désormais, vous allez devenir cet ami intime du Seigneur à qui le Seigneur peut communiquer des visions qui vont changer le monde positivement, à qui le Seigneur peut communiquer des paroles, des grâces et beaucoup d'autres choses qui vont aider les gens d'une manière ou de l'autre. Et je disais tantôt que le Seigneur dit que quand il n'y a pas de vision ou de révélation, le peuple est sans frein. Et c'est dans Proverbe chapitre 28, le verset 19. Donc, le monde a besoin d'être orienté. Et pour cela, il faut des visionnaires. Et gloire à Dieu, parce que les jeunes sont ceux-là à qui Dieu va donner des visions. Et beaucoup vont les suivre avec ces visions venant de la part du Seigneur. Vous écoutez toujours l'aide de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 17 au verset 25, la Bible nous relate une histoire. L'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 17 au verset 25, c'est l'histoire d'un jeune homme, riche et même chef, qui est venu se prosterner devant le Christ en lui disant, « Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Quelle question ! Une question vraiment essentielle et tout le monde devrait se la poser. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle, tout le monde en a besoin. Et nous allons vivre tous éternellement, soit dans le paradis du Dieu vivant, soit très très loin, dans le lac de feu. Donc c'est une question essentielle. Et le Seigneur Jésus-Christ va lui dire, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Verset 20, il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Verset 22, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il les dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Dans cette histoire que nous venons de lire, ou bien cette portion des Écritures qui relate l'histoire de cette personne, ce jeune homme qui voulait savoir comment faire pour hériter la vie éternelle, lorsque le Christ va lui dire ce qu'il va faire, à savoir vendre ce qu'il avait et donner cela aux pauvres. En réalité, pour hériter la vie éternelle, on n'a pas besoin de vendre ses biens. C'est juste que le Seigneur connaissait ce jeune homme en particulier. Et son problème, c'était ses richesses. Il voulait entrer dans le royaume des cieux, il voulait hériter la vie éternelle, mais il se confiait beaucoup plus en ses richesses qu'en Dieu. Et une petite parenthèse avant de passer. C'était un chef, un homme qui s'efforçait de pratiquer la parole de Dieu, mais au fond de lui, il n'avait pas la vie éternelle. Donc, on n'a pas la vie éternelle parce qu'on pratique les dogmes de sa religion. On n'est pas enfant de Dieu parce que on pratique les lois de Dieu. Parce que les lois, en pratiquant même les lois de Dieu, selon nos propres efforts, nous n'hériterons jamais la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Cette vie est tellement chère que personne ne peut l'acheter. La Bible nous dit clairement dans Éphésiens 2, à partir du verset 8 au verset 10, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous avons été sauvés par la grâce. Et les bonnes œuvres, Dieu les a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc on pratique les bonnes œuvres parce qu'on est sauvé. On ne pratique pas les bonnes œuvres pour être sauvé. Oui, c'était une parenthèse. Donc en pratiquant même les rites de votre religion, même en priant plusieurs fois par jour, en jeûnant, ça ne vous sauvera pas. Jusqu'à ce que vous vous repentiez, que vous acceptez Christ dans votre vie, dans votre cœur, comme Seigneur et Sauveur personnel. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ, nous revenons à notre histoire bien entendu, va dire à cet homme que tu connais les commandements, le Seigneur Jésus-Christ ne doit pas citer le premier commandement, à savoir, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face que toi. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas cité ses commandements. C'était une façon de montrer à cet homme que bien qu'il pratiquait certains commandements de Dieu, il ne pratiquait pas le premier commandement. Il n'aimait pas Dieu de tout son cœur. Ses richesses avaient pris la première place dans son cœur. Et vous tous aussi qui êtes à l'écoute, une question doit être posée. Chacun doit se poser cette question. Qu'est-ce qui essaie toujours de prendre la première place dans mon cœur, la première place qui revient au Seigneur? C'est quoi? Pour cet homme, c'était ses richesses. Pour vous, c'est quoi? C'est de l'argent? C'est de la bière, la drogue? Le sexe opposé? Non. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans vos cœurs. Alors, jeunes gens, c'est Dieu qui mérite la première place en tant que créateur dans nos cœurs et dans nos vies. Donc, ne laisse pas, oui, jeune fille, ne laisse pas Seigneur avoir la première place dans ton cœur. Et toi, jeune homme, ne laisse pas cette yoyette avoir la première place dans ton cœur. Et rien ne doit prendre la première place dans nos cœurs. C'est Dieu seul, notre sauveur, notre créateur, qui mérite cette place. Alléluia. Donc, si vous voulez vraiment être agréable au Seigneur, faites tout pour qu'il ait la première place dans vos cœurs, dans vos vies. Toutes les autres choses, toutes les autres personnes viendront après Dieu. Oui. Et si nous lisons également dans l'évangile de Luc, chapitre 15. L'évangile de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11 au verset 32. C'est une longue lecture que vous pouvez relever après, prendre votre temps pour lire. C'est l'histoire du fils prodigue. Oui, ce jeune homme qui va demander sa part d'héritage à son père, alors que son père était encore en vie. C'est Jésus qui a raconté cette histoire. Au verset 11 de Luc 15, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père les partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays s'éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder ses pourceaux. Verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Voilà l'histoire de ce jeune homme qui a décidé de prendre sa part d'héritage et d'aller très très loin. Malheureusement pour lui, arrivé dans ce pays éloigné, il a tout dépensé. Jeunes gens, Dieu vous a donné beaucoup de dons, beaucoup de talents. Qu'est-ce que vous faites de ces dons et de ces talents? Est-ce que vous les bousillez, vous les dépensez n'importe comment? Non. Sachez que vous avez en vous d'énormes dons et d'énormes talents. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas des dons et des talents venant directement du Créateur. Mais malheureusement, beaucoup utilisent mal ses dons et ses talents. Parfois, beaucoup utilisent les dons et les talents pour se détruire ou même pour servir et honorer le diable. Non, il est temps de vous réveiller. Tous les dons et tous les talents que Dieu a déposés en vous, utilisez cela pour une bonne cause. Utilisez cela pour glorifier votre Dieu. Ne dépensez pas, ne bousillez pas ces dons et ces talents n'importe comment, jeunes gens, et vous tous qui êtes à l'écoute. La Bible nous dit que cet homme va dépenser tout cet argent qu'il avait pris et il va se retrouver dans le manque. Il s'était éloigné de son père en croyant bien faire, mais le voilà dans les problèmes. Le père ici, c'est tout simplement l'image de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est au ciel ». Donc Dieu est notre Père. Beaucoup ne veulent pas rester auprès du Père, le Créateur. Beaucoup veulent vivre très loin du Père. Beaucoup veulent vivre dans les plaisirs du monde. Et conséquence, nous pouvons voir ce qu'il y a autour de nous. La destruction. Beaucoup se détruisent au lieu de se construire. Les jeunes se détruisent avec les maladies sexuellement transmissibles, avec la drogue et la vie de débauche, que sais-je encore. Vous n'allez pas diriger le monde en menant votre vie de cette façon. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas débat. Vous serez un jour les dirigeants et les leaders de demain. Il n'y a rien à faire. Vous êtes obligé de diriger le monde de demain. Que ce soit dans le monde politique, dans le monde financier ou dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel. Et alors, commencez à vous préparer maintenant en étant près du Père. Ne vous éloignez pas du Père. Ne vous éloignez pas de Dieu. Parce qu'auprès du Père, vous avez toutes sortes de conseils. Vous avez vraiment la protection. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour être en sécurité et pour avancer sereinement. Ne pensez pas qu'en vivant loin de Dieu, vous serez plus heureux. Non, contrairement à ce que les gens croient, l'affaire du Seigneur n'est pas une affaire de rétrograde. Non, c'est même le minimum de bon sens, mesdames et messieurs. Beaucoup voient négativement l'affaire du Seigneur Jésus. Bien au contraire, le Christ, s'il est venu, c'est parce que nous en avons besoin. Et vous, jeunes gens, vous avez besoin de lui. Restez tout près de lui et vous verrez que ce qui est arrivé à ce jeune homme ne vous arrivera pas. Parce que loin du Seigneur, c'est la misère, c'est toutes sortes de problèmes. Parce que le diable est là. Il rôde vous tendant des pièges par-ci, par-là, afin que vous ne puissiez pas jouir de ce pourquoi Dieu vous a créé. Et la Bible nous dit que nous voilà en train de travailler maintenant dans les porcheries parce qu'il n'avait plus le choix. Mais la misère est arrivée à un point où il voulait même manger la nourriture des porcs. Mais il n'y avait personne pour le lui en donner. Quelle misère! Je sais que présentement, beaucoup sont en train de misérer. C'est vrai, la misère ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu que ces créatures misèrent, encore moins ces jeunes gens. Donc, peut-être vous êtes tellement éloigné de Dieu. Il est temps de rentrer en vous-même et de retourner à la maison. Comme ce jeune homme qui va se dire, ce n'est pas du tout possible. À la maison, dans la maison de mon père, il y a tellement à manger. Et je suis ici, je misère, j'envie la nourriture des porcs. Il n'y a personne même pour m'en donner. Je vais retourner à la maison, je vais me repentir. Je dirai à mon père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Je dirai aussi à Dieu que j'ai péché contre lui. Et c'est ce qu'il va faire. Il va retourner à la maison. Et la Bible nous dit que pendant qu'il était encore en chemin, le Père va courir et l'embrasser. Oh, alléluia, le Dieu que nous prêchons est amour. Il suffit seulement que vous entrez en vous-même et que vous décidiez de venir à lui. Peu importe ce que vous avez fait, il vous pardonnera. Peu importe votre vie passée, peu importe les erreurs, les gaffes, Dieu vous pardonnera. Tout le monde a toujours commis des erreurs dans la vie, d'une manière ou de l'autre. Mais vous n'êtes pas obligé de demeurer dans ces erreurs. Revenez en vous-même et retournez à votre Créateur. Il vous pardonnera, il vous purifiera. Et la Bible nous dit que cet homme, oui, le Père, bien entendu, lorsqu'il va revoir son fils, il va s'empresser d'organiser une grande fête pour célébrer son retour. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc, si vous vous repentez, vous allez provoquer même une très grande joie au ciel. Parce que Dieu est tellement fier de voir ses créatures quitter le camp de la misère pour venir dans le camp de l'abondance, qui n'est que le camp du Seigneur. Oui, le Seigneur est toujours fier de voir les gens quitter les ténèbres pour venir à son admirable lumière. Le Seigneur Jésus est tellement fier de voir les gens quitter le royaume de Satan pour venir dans son royaume d'amour. C'est pour cette raison que lorsque un seul pécheur se repent, ou une seule pécheresse, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel. Que c'est tellement merveilleux. Vous écoutez l'heure de la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra tout simplement libre, mesdames et messieurs. Cet autre texte, tellement édifiant, se trouve dans Actes des Apôtres. Oui, lisons à partir du verset 9 au verset 12 du chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 9 au verset 12. Écoutons tous attentivement ce qui est écrit dans cette portion des Saintes Écritures. Je me charge de lire pour nous tous. Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 9. Or, un jeune homme nommé Étichus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Verset 10. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, verset 11, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Verset 12. Le jeune homme fut ramené vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Dans cette portion des Saintes Écritures, la Bible nous relate une histoire. Voilà l'apôtre Paul qui était en train de prêcher dans une maison au troisième étage. La Bible nous dit qu'il y avait aussi un jeune homme qui était parmi les auditeurs. Mais la particularité de ce jeune homme, c'est que quoi? Il a décidé de s'asseoir que sur la fenêtre pour écouter la parole de Dieu. Quelle drôle de façon. Oui, écouter la parole de Dieu tout en n'étant assis que sur la fenêtre au troisième étage. Mais malheureusement pour ce jeune, la Bible nous dit qu'entre-temps, il s'est endormi et il est tombé et il est mort. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans cette portion de Saintes Écritures. Ce jeune a choisi de s'asseoir sur la fenêtre parce qu'il voulait en même temps écouter la parole de Dieu et en même temps guetter ce qui se passait dehors. Oui, un œil dehors et un œil à l'intérieur, en califourchon. Non, ça ne marche pas de cette façon, mesdames et messieurs et très jeunes gens. Vous n'allez pas avoir un œil dans la maison de Dieu et un œil dans le monde. Vous n'allez pas avoir une oreille tournée vers Dieu et une oreille tournée vers le monde. Non, ça ne marche pas de cette façon. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Le Seigneur Jésus a dit, vous aimerez forcément un et vous allez mépriser l'autre. Si c'est Dieu, servez-le de tout votre cœur. Oui, servez-le. Et si c'est le monde, allez. Un jour, bon, de toutes les façons, le Seigneur nous conseille de suivre plutôt le chemin de la vie. Et non le chemin de la destruction, le chemin du monde, le chemin de la mort. Et lorsque ce jeune homme qui avait décidé de s'asseoir sur la fenêtre pour écouter la parole de Dieu, un œil dehors, un œil dedans, un pied dedans, un pied dehors, une oreille dehors, une oreille dedans, finalement, le sommeil va le prendre et il va tomber. Ce qui est curieux, c'est qu'il va tomber à l'extérieur, au lieu de tomber à l'intérieur. C'est pour cette raison qu'il est mort, parce qu'il était au troisième étage. La plupart des temps, le diable récupère toujours dans le monde ceux-là qui ne veulent pas vraiment se consacrer de tout leur cœur à Dieu. Vous ne pouvez pas jouer facilement dans les deux camps et vous en sortir. Le monde ou le diable va toujours finir par vous récupérer. Et lorsque le diable vous récupère, c'est la mort. Jésus a dit, oui, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, le diable est venu pour tuer, voler et détruire. Donc c'est son travail, il vole, il tue, il détruit. Mais le Christ dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. D'un côté, le Christ donne la vie. La vie en abondance de l'autre, le monde et le diable donnent la mort. La mort, à vous de choisir, à vous de choisir. Heureusement que l'apôtre Paul a pu ramener à la vie ce jeune qui est tombé du troisième étage et qui est mort. Heureusement qu'il a été ressuscité. Oui, même si vous êtes tombé, le Seigneur est prêt à vous ramener à la vie. Oui, parce que le Seigneur donne toujours une seconde chance aux hommes, même quand ils tombent. Vous n'êtes pas obligé de demeurer là où vous êtes tombé. Oui, vous pouvez toujours vous relever au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'un nouveau départ est toujours possible avec le Seigneur Jésus. Même si par le passé, vous vous êtes trompé, jeunes gens et vous tous qui êtes à l'écoute. Allô, ne restez pas là, Revenez au Seigneur. Il va vous remettre sur le droit chemin et vous allez avancer sereinement. Et vous allez réussir désormais avec lui. Que c'est vraiment merveilleux. Gardez tout simplement l'écoute, mesdames et messieurs, et très jeunes gens. Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Amen. Personne ne doit mépriser ta jeunesse, mais pour cela, tu dois faire les efforts d'être un modèle, c'est-à-dire un exemple. Cette personne qu'on peut imiter, qu'on peut copier. Et si vous êtes un modèle, personne ne s'hasardera de vous mépriser, peu importe votre extrême jeunesse. Donc, sois un modèle pour les fidèles. Oui, dans les assemblées chrétiennes, où que vous soyez, soyez des modèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et toujours dans Timothée, cette fois-ci, 2 Timothée chapitre 2, le verset 22 qui dit, « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Alléluia. Fuis les passions de la jeunesse. La Bible reconnaît que la jeunesse a des passions. Et ces passions peuvent compromettre votre avenir. Pour cette raison, fuyez. Et quand la Bible dit de fuir, il faut vraiment fuir. Si vous ne fuyez pas les passions de la jeunesse, ces passions vont vous détruire. Oui, les plaisirs du monde vous guettent et vont compromettre votre avenir. Alors, fuyez tout ce qui essaye de vous empêcher de vous concentrer sur vos études, de vous concentrer sur votre formation professionnelle. Fuyez cela comme de la peste. Fuyez. Fuyez la débauche. Fuyez tout ce qui n'honore pas Dieu. Et il faut rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, autrement dit, vous choisissez aussi vos amis. Jeunes gens, ne marchez pas avec n'importe qui. Marchez avec les gens qui peuvent vous influencer positivement, qui peuvent vous aider à avancer, à progresser, à réussir. Donc, faites gaffe. Désormais, veillez sur vos relations. Et 1 Timothée chapitre 5 nous dit ceci au verset 14. 1 Timothée 5, verset 14. « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants. » Qui dirige bien les maisons, qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire. Alléluia. Dans cette portion de Sainte Écriture, la Bible encourage les jeunes. Au lieu de vivre une vie de débauche, de désordre sexuel, si vous avez les moyens, si vous avez les capacités, si vous pouvez entretenir une femme ou un homme ou une maison, un foyer, mariez-vous tout simplement. Ce n'est pas un péché. En dehors de ce cadre-là, les relations sexuelles sont interdites. Donc, ne fricotez plus par-ci, par-là, n'importe comment. Si vous êtes en mesure d'entretenir un homme, une femme, la Bible dit, mariez-vous. Ayez même les enfants. Prenez soin de votre maison et ainsi vous n'allez donner à l'ennemi aucune occasion de médire. Donc, c'est très, très important. C'est pour dire, cette relation que vous avez, il faut arrêter cela maintenant si ce n'est pas dans un cadre du mariage. Si ce n'est pas dans le cadre du mariage, c'est péché devant Dieu. Donc, jeunes gens, vous pouvez vous marier si c'est nécessaire. Si vous n'avez pas encore l'âge, si vous n'avez pas encore les capacités, les moyens, abstenez-vous. Chaque chose a un temps sous les cieux. C'est ce que la Bible nous dit dans Ecclésias chapitre 3. Et il y a un temps pour toutes choses. Un temps aussi pour se marier. Donc, préparez-vous à vous marier tout simplement en disant non à la vie des débauches et aux désordres sexuels. Vous connaissez les conséquences. Grossesse non désirée et maladie sexuellement transmissible. Que dis-je encore? Et l'avenir compromis par ce genre de vie. Et nous allons également lire dans Tite chapitre 2, le verset 4, qui dit ceci. Tite 2, le verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer les maris, les enfants. Oui, jeunes femmes, la Bible vous encourage. Si vous êtes mariée étant jeune, faites tout pour aimer votre mari comme cela se doit. C'est une exhortation de la part du Seigneur. Aimez votre mari de tout votre cœur. Du moment où vous êtes déjà mariée, même si vous êtes encore jeune, vous n'avez plus le droit de regarder dehors. Oui, concentrez-vous sur votre mari. Sur votre femme aussi, bien entendu. C'est même parce que vous êtes mariée jeune que vous allez vous croire que tout est permis. Vous pouvez aller dehors par-ci, par-là. Non, non. Du moment où vous êtes mariée, vous êtes obligé d'aimer votre femme, d'aimer votre mari et de vous attacher à votre mari, votre femme, de tout votre cœur en refusant de ne plus regarder dehors. Et toujours dans Tite, chapitre 2, le verset 6 nous dit ceci. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Exhorte de jeunes gens à être modérés. La modestie. Oui, la Bible nous encourage à être des gens modérés. Ne soyons pas extravagants. C'est la recherche de l'extravagance qui pousse parfois les jeunes gens à se compromettre, à vendre même leur âme au diable. Parce qu'ils veulent porter des chaussures luxueuses, des habits luxueux, que sais-je encore. Imiter le monde dans la course effrénée à la mode. Non, la Bible nous encourage à la modestie. Soyez modérés, soyez modestes dans tout ce que vous faites. Et la Bible est bien placée lorsqu'elle dit ces choses, particulièrement aux jeunes gens. Et 1 Pierre chapitre 5, oui, l'apôtre Pierre va dire aussi, dans sa première lettre, chapitre 5, au verset 5, il est écrit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Ça, c'est le verset 6. La Bible nous demande, particulièrement à jeunes gens, vous devez être soumis aux anciens. Ceux-là qui ont été avant vous, qui ont une certaine expérience, soyez soumis. Lorsqu'ils vous donnent des conseils qui peuvent vous aider, écoutez ces conseils. Et la Bible dit qu'il faut être humble. Au moment opportun, Dieu va vous élever. Parce que beaucoup veulent être élevés avant le temps. Beaucoup veulent être élevés alors qu'ils ne connaissent même pas grand chose dans ce domaine. Non, attendez. Au moment opportun, Dieu vous élèvera. Dieu vous élèvera. Donc, ne convoitez pas les postes et que sais-je encore. Alors que ce n'est pas encore le moment. Dieu lui-même se chargera de vous élever au temps convenable. Donc, l'humilité, la patience, la modestie sont vivement conseillés par le Seigneur. Et dans 1 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean aussi va dire quelque chose. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 14. Il est écrit ceci, je lis pour nous tous. Je dis bien 1 Jean. Oui, d'abord, nous allons lire chapitre 2, après nous allons lire également chapitre 4. 1 Jean chapitre 2, verset 13 et 14. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Oui, je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le malin. Verset 14. Jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Amen. La Bible dit ici, si vous gardez la parole du Seigneur dans votre cœur, vous allez vaincre le diable. Peu importe ce que le diable va faire pour vous déstabiliser, pour vous détruire, pour compromettre votre avenir. Le Seigneur dit, si vous gardez la parole de Dieu, vous allez vaincre. Donc, le seul secret de la victoire, jeunes gens, si vous voulez vaincre ce monde qui est pervers, corrompu, enténébré, vous avez besoin de la parole de Dieu, de garder la parole de Dieu dans votre cœur pour être victorieux. C'est très, très important. Et maintenant, dans 1 Jean, chapitre 4, la Bible va dire ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Si vous avez le Christ en vous, Ne vous en faites pas, vous allez vaincre. Peu importe les puissances des ténèbres qui sont mobilisées dans ce monde pour vous amener à vous compromettre, pour vous amener dans les sectes sataniques pernicieuses. Le Seigneur dit que vous allez vaincre, tout simplement parce que celui qui est en vous est plus fort que tout ce qu'il y a dans ce monde. Donc il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune secte satanique mystique dans ce monde qui peut vaincre cette personne qui a le Christ. Et je m'attarde à ce niveau, pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où les sociétés secrètes, mystiques, sataniques essaient de prendre le monde en otage. Et beaucoup de jeunes se disent que s'ils ne se donnent pas à ces sectes sataniques, à ces loges mystiques, ils ne réussiront pas. Parce que parfois nous regardons autour de nous, beaucoup qui ont des postes, parfois ont signé des alliances dans des sectes sataniques pernicieuses. Non, vous n'avez pas besoin de ces choses-là pour réussir. Vous avez juste besoin de Christ. Et la Bible dit, s'il est en vous, il est plus fort que tout ce qu'il y a dans ce monde. Retenez cela une fois pour toutes. Vous n'avez pas besoin de sectes sataniques ni des écorces pour réussir, très jeunes gens. Et pour finir, le dernier chapitre que nous allons lire, c'est dans le livre du prophète Jérémie. Il est écrit ceci au chapitre 29 de Jérémie. Écoutez attentivement à partir du verset 11 de Jérémie 29. Il est écrit, je me charge de lire pour nous tous, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Jeunes gens, l'avenir vous appartient, vous êtes l'avenir de demain. Et Dieu dit ici qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous. C'est un projet de paix et non de malheur. Il veut vous donner un avenir plein d'espérance. Parce que lorsque on regarde l'avenir, à vrai dire, pour être réaliste, c'est sombre. Avec le chômage, il n'y a même plus de garantie qu'après l'école, après les études, après les diplômes, il y aura un emploi décent. C'est sombre, c'est triste. Mais Dieu dit, lui, il sait, il connaît les projets qu'il a pour vous. L'avenir, votre avenir est déjà assuré en Christ. Si et seulement si vous pouvez lui faire confiance. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers votre Dieu, votre Créateur, votre Sauveur. Et vous verrez que votre avenir est assuré. Ce n'est qu'en lui que votre avenir peut être assuré. Que vous aurez de l'espérance. Que l'avenir ne vous fera plus peur. Si et seulement si vous avez les regards sur le Seigneur. Donc, tournez-vous vers le Seigneur. Élevez vos regards vers les cieux. D'où vous viendra le secours. La seule personne qui peut vous assurer vraiment une avenir certaine. Parce que même les études, les hautes études, des gros et grands diplômes ne garantissent pas forcément dans ce monde-ci présentement un avenir meilleur. Mais avec le Seigneur, tout est assuré. Que c'est vraiment merveilleux, très très merveilleux. Compte tenu du temps, mesdames et messieurs, très jeunes gens, nous sommes obligés de mettre un terme à cet entretien qui était très très riche, très très édifiant. Mais si vous avez des préoccupations de quelque nature que ce soit, sentez-vous libre. Si vous voulez même savoir comment connaître Christ et comment le servir, comment même grandir dans la foi chrétienne, sentez-vous libre de nous rencontrer. Moi, je reçois tous les jours sans protocole. Si vous avez même besoin de conseils pratiques, si vous avez même besoin de prières, peut-être vous êtes même dans des problèmes sans solution, sentez-vous libre. Je crois, avec le Christ, il y a toujours une bonne solution. Il y a toujours une porte de sortie quelque part, parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Rien ne peut résister devant la foi et devant la prière faite avec ferveur et s'appuyant sur la parole de Dieu, bien entendu. Et je prie que le Seigneur bénisse également cet auditeur qui dit qu'il a des problèmes financiers. Oui, mon frère, c'est vrai, l'ongémé, c'est ce qui est écrit là, ce n'est pas du tout bon. Mais que Dieu te fasse grâce et qu'il t'accorde vraiment d'être béni et de sortir de ce ngémé, entre guillemets, selon que tu l'as écrit. Nous allons prier et nous allons nous séparer. Seigneur Jésus, sois béni pour ce moment, sois béni pour ta parole. Oh Dieu, ta parole, c'est vraiment une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole illumine, ta parole éclaire, ta parole restaure, ta parole guérit même. Merci de bénir ta parole dans le cœur de toutes ces multitudes, où qu'elles se trouvent. Que cette parole puisse vraiment, oh Dieu, les restaurer, les guérir, les encourager, les fortifier, les éclairer même. Seigneur, je te consacre particulièrement les jeunes gens. Oh Dieu, Seigneur, qu'une main spéciale de ta part se pose sur chaque jeune qui est à l'écoute, où qu'il se trouve. Seigneur, que ce soit seul tes projets qui se réalisent dans chacune de leurs vies. Ces leaders de demain, Seigneur, que tu as créé à ton image, à ta ressemblance. Je refuse tout plan de Satan pour les détruire. Je dis que tous ces jeunes gens qui sont à l'écoute n'ont pas besoin. Oui, je dis que ces jeunes gens n'ont pas besoin de se compromettre, de croire que leur avenir se trouvera dans les loges mystiques sataniques de quelque manière que ce soit. Non, ces jeunes gens réussiront, ils triompheront, oui, ils vaincront sans se compromettre au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement parce qu'ils se sont confiés à toi, parce qu'ils ont gardé ta parole. Seigneur, que tous les pièges que Satan tend sous les pieds se referment, Seigneur. Seigneur, suis ceux-là qui tendent ce même piège, Seigneur, pour attraper ces jeunes gens. Merci, Seigneur, de bénir ces jeunes gens. Merci de prendre soin de leur avenir. Merci de bénir, Seigneur, également notre nation abondamment. Merci de bénir toutes nos autorités. Merci de bénir cette ville et ce département. Que toute la gloire te revienne, parce que tu es certainement au total contre, tu agiras. À toi les honneurs, les acclamations, les actions de grâce, le règne, la majesté, la puissance, maintenant et pour des générations et des générations. Amen. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre entretien de ce jour. Pour vous servir, moi je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur. À bientôt et que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00 237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité. L'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, jamais. Ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.